RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti à 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Gilbert Brébois.
Et oui, l'After Foot et ses génies sont là jusqu'à minuit. Vous en avez entendu quelques-uns. Il y en a d'autres là autour de la table. Daniel Riolo, Jérôme Rotem, Noah, notre jeune auditeur afterien qui écoute. Depuis quel âge t'écoutes l'After?
Depuis que j'ai 10 ans, depuis le match Rochelon Bayern, le 3-0.
Depuis le 3-0.
Ouais.
Ah oui, mauvaise soirée.
Ah bah 2010. Depuis Vincent Moscato.
Depuis Vincent Moscato.
Qui chante la Marseillaise.
Exactement.
Chanter quelque chose aussi, hein, pas très bien compris.
Et tes parents sont amis avec Boris Becker?
Non, pas du tout.
Parce que le fils de Becker s'appelle comme toi.
Ah bon?
Eh oui.
Je savais pas.
Noah.
Ah ouais, en hommage à Yannick.
Messieurs, le foot international, tous les soirs dans l'after à 23h.
Toi, raconte à tes potes, tu vas frimer un peu.
Bah, t'inquiète pas, t'as vu les arguments qu'il a à ramener là?
Non, mais tu
vois. À mon avis, il a pas besoin de tes arguments pour frimer. Hein.
Bah, si,
il est
déjà, qu'il sache que le fils de Becker s'appelle comme ça en hommage à Noah.
Il y a Yannick surtout, c'est le plus connu ici.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est son nom de famille, toi, c'est ton prénom.
Merci.
Si t'ajoutes un truc en plus, tu vois.
Footballeur, il y en a qu'un.
Qui?
C'est qui?
Je le connais de fut d'ailleurs.
Ah oui, qui?
Ouais.
Qui?
On me l'a donné dans mon équipe de base.
Ah, Noah, c'était un mec chose, à 50 de notes un peu partout, un peu un moisi quoi.
Bon,
le mec que t'as au début quand tu démarres en D10.
C'est ça, ouais. Arrière droit. Ouais.
Cette classe est dissipée, Noah, s'il te plaît. On va accueillir Christophe Glaise qui est là parce que Christophe, avec Barthélémy Gaillard, a écrit un bouquin que je vous montre, Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, aux éditions Marabout. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors,
bonsoir, Christophe.
J'ai lu le livre, Daniel aussi. Jérôme, tu l'as pas lu toi? On t'a pas donné.
Parce que moi, c'est toujours pareil.
Non, on est d'une honnêteté totale.
Non, mais moi aussi, je vais être d'une autre transparence totale. C'est que j'ai appris ta venue ce midi, tu vois, donc enchanté, tu vois. Et après, ils m'ont dit, à 18h, Jérôme Thomas, qui organise l'émission quand même, tu vois, à 18h, il m'appelle, il dit, voilà les thèmes, et puis on va recevoir quelqu'un qui va nous parler de son livre Magic System. Bah, génial.
Alors, pour être totalement transparent.
Et à chaque fois, ils me font.
Jérôme, dans l'oreillette me dit, tu veux que je t'envoie le bouquin?
Non, c'est pas vrai.
Et encore une fois, mais vu
j'en
que...
J'en prends une feuille, tu feras d'abord une liste des joueurs africains que t'as côtoyé, ça va faire l'affaire.
C'est mission comme elle est, tu vois. Bon, maintenant, j'essaye de...
Attends,
je suis un ancien joueur professionnel, tu vois, du football. Donc Daniel me parle, il est obligé pour me parler, que je comprenne, de me parler en langage footballeur. Donc ils se disent...
En fait, on s'est dit, c'est pas lire.
Non, mais c'est pas lire.
Jérôme,
il est con. Tu vois, moi, je lis un journal, le quotidien sportif, le seul qu'il y a, c'est tout.
On peut faire une petite liste ensemble pour que ça.
Alors allez-y,
les joueurs débattent. Les joueurs africains que t'as connus, comme ça tu vas pouvoir les placer. Voilà. Donc Nonda.
T'en fais pas que j'en ai eu un paquet.
Ah, non, trois autres. J'ai Nonda là pour l'instant. Vas-y, complète un peu. Un autre, vite.
T'en fais pas, je l'ai fait.
Diané
qui l'a sauvé quand même.
Diané, merde.
Nonda tout en haut de la liste.
Samy Traoré, international malien.
Samy.
Non, c'est pas n'importe quoi quand même.
Ok, il en manque encore deux pour que t'en aies cinq au moins à caser dans la discussion.
Mais c'est bon, mais je les ai.
Deux autres africains. Vas-y, joueur africain avec qui t'as joué.
Casri, par exemple, international tunisien.
Mais
t'as joué avec
Casri?
Oui, bien sûr.
Récent.
Casri, il entre pas dans le truc du bouquin, laisse tomber. Ça marche pas.
Mbami. Change de pays aussi.
Casri, ça marche pas dans le bouquin, tu verras, ça colle pas.
Moulumbu.
Kalou. Kalou, non, Kalou. Mais vous avez oublié le meilleur.
Moulumbu,
ça
changeait de.
Non, mais Moulumbu, ça. Attends, Moulumbu, il était.
International congolais.
Formation
bien sûr, congolais.
Oui, non, mais qu'il soit international et tout, mais au départ, il vient d'où?
De Paris.
Ouais, mais donc ça colle pas avec le bouquin.
Non, attends, excuse-moi, Apoula Edel. Ah non, il est arménien, pardon, ça colle pas. Ah non.
Si, mais Edel, ça colle. Edel, ça colle à mort avec le thème du bouquin.
Alors voilà. Justement.
T'as la liste, Jérôme, avec ça, tu vas développer.
Je ne dis rien, je ne l'ai pas lu, j'écoute.
Alors, c'est une enquête avec, en plus, de nombreuses interviews intéressantes à l'intérieur. Et il y a des histoires, mais totalement hallucinantes. Et j'aimerais quand même démarrer par un truc qui arrive assez vite dans le bouquin, et que vous ne développez pas plus que ça. Il y a un gars de la Fédé qui s'occupait des licences, qui leur a quand même balancé « Bon, enfin... » De toute façon, on sait tous que Basil Boyu, il avait 4 ans, 50 plus.
Absolument, ouais, non, ouais, mais
ils sont... On l'a toujours dit, ça.
Mais non, mais... Le mec était international français. Comment c'est possible, Christophe?
Ah bah comment c'est possible, il y a des complicités à tous les niveaux, dans les ambassades, dans les fédérations, voilà. Plus globalement, le trafic d'âge, puisque c'est de ça dont vous parlez, ouais. C'est une pratique totalement instituée depuis les années 80 en Afrique, où le principe est très simple, c'est qu'on va baisser son âge de 3 ou 4 ans pour se rendre plus attractif sur le marché. Mais de plus en plus, en fait, ce qu'on observe, c'est que il y a derrière tout ça, en fait, des réseaux bien structurés et beaucoup d'intérêts supérieurs, comme celui de faire disparaître, en fait, les fichiers les joueurs, pardon, en changeant leur âge ou leur nom, les faire disparaître des fichiers des fédérations.
Et là, il y a les pires magouilles possibles. Voilà. Tu parles notamment de l'ancien Nantais Makoukoula, en RDC. Qui lui apparemment est un virtuose du changement d'identité.
Honnêtement, oui, c'est un virtuose. Après, je veux pas le pointer lui spécialement du doigt, dans le sens où j'ai eu des éléments sur lui, mais c'est un petit maillon d'une très grande chaîne, quoi. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui trafique l'âge l'âge de ses joueurs à l'appel. C'est le cas notamment
et l'identité pour que le club formateur ne touche pas les indemnités qu'il devrait recevoir de formation.
Exactement. C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour que, en fait, les joueurs soient totalement sous la coupe de l'agent et, en fait, qu'on n'ait plus à payer les indemnités aux clubs africains. Et, en fait, ce qu'on observe très souvent, c'est que c'est à l'initiative de réseaux assez opaques, au sommet duquel sont des clubs européens. Vous voyez, donc c'est toute une. Quelquefois, c'est le joueur, bien sûr, qui va changer de lui-même, mais tout dépend du niveau du joueur, parce que il y a trois types de joueurs africains. Il y a le joueur bon, la pépite, le prodige, qui va être repéré à la préadolescence et très vite partir. Bon, généralement, ça, c'est quand même une grande minorité. Après, il y a le joueur moyen qui a ses propres réseaux, mais bon, comment il va faire pour atterrir en Belgique ou en Hongrie, etc. Bon, ben là, il va changer son âge à son instar. Et après, il y a les joueurs mauvais, qui eux aussi ne sont que de passage, mais pour eux on peut plus penser qu'ils utilisent le foot comme un moyen d'immigration.
Ce qui est hallucinant, ce qu'on voit dans le bouquin, c'est qu'il y a des complicités en fait de partout. Les dirigeants de club, dans les fédés,
absolument.
Les agents, et même donc les clubs qui reçoivent les joueurs, pour certains, sont dans les combines. Enfin, le système est complètement vérolé dans le. Là, magique, on parle de tout ce qui est transfert entre l'Afrique et l'Europe.
Et l'Europe, ouais. Oui, non, mais en fait, ce qu'on essaie de mettre en valeur dans le livre avec mon co-auteur Barthélémy Gaillard, c'est que le footballeur africain, en fait, est la nouvelle poule aux œufs d'or du marché. Enfin, c'est un animal mystique entre la poule aux œufs d'or et la vache à lait. Mais si vous voulez, c'est vraiment une armée de réserves énormes dans lequel les clubs européens viennent piocher de la matière première à bas prix, à bas coût. Et donc on remarque que même aujourd'hui, les clubs à bas niveau en France, enfin je veux dire, vous voyez, des clubs de banlieue parisienne, ils ont des logiques de recrutement transnationales, parce qu'en fait, on va prendre un joueur africain. Et on va faire comme, disons, les clubs portugais. Je prends un exemple juste pour que ça soit concret. On va les parquer à 10 ou 15. On va avoir des réserves de 80 joueurs en D2 portugaises, avec des joueurs qui tournent en permanence, qui sont dans certains cas esclavagisés. Enfin. Dans les cas les plus terribles. Et s'il y en a un qui perce, tout de suite on peut gagner 10, 15 millions d'euros à la revente. Voilà. Et pour tous ceux qui
ratent, pas,
c'est juste perdre
vous
des
dégagez.
Profits, quoi. Après, le foot, c'est un endroit sélectif aussi. C'est le gros problème des jeunes footballeurs africains qui croient que ils vont toujours réussir et ils se rendent pas compte de la difficulté.
Il y a un autre truc que vous racontez très bien. Et il y a des témoignages aussi, notamment de Guillou, qui est un formateur reconnu en Afrique, qui a quand même formé toute la génération des Ivoiriens là.
Il continue, il se diversifie. Hein.
C'est que il explique très clairement. Il dit, mais de toute façon, les gamins, ils veulent s'en aller. C'est-à-dire que même si demain il y avait des championnats structurés avec des clubs avec un peu plus d'argent et tout,
ça c'est différent quand même. Parce que ils veulent tous partir parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles ils sont. Mais si disons que la solution à cet exode, en gros, c'est à long terme, mais c'est de faire monter le niveau des championnats locaux. Parce que si les joueurs étaient payés 2000 ou 3000 euros sur place, ils seraient pas dans une urgence du départ comme on voit aujourd'hui. Mais là, ils veulent partir à tout prix. Ils sont prêts à tous les mensonges, tous les artifices, tous les sacrifices aussi. Mais parce que leur famille a faim. et ils sont complètement happés par l'Eldorado européen et par des vendeurs de rêves qui pullulent voilà, à tous les coins de rue sur le continent. Et c'est vraiment très frappant, de toute façon, quand on va en Afrique de l'Ouest et que les enfants jouent à chaque coin de rue. Et voilà, bon, c'est, au début, on croit que c'est du plaisir, un jeu, mais vraiment, en fait, le football en Afrique a mué du sport et de la passion à un objet de développement économique et social, vraiment, où maintenant les jeunes, en fait, sèchent l'école complètement pour tenter leur chance dans le foot et ils ne veulent plus devenir médecin ou avocat. Ils veulent vraiment, voilà, être le nouveau Didier Drogba. Le problème, c'est que c'est très difficile de leur expliquer que pour un qui va réussir, il y en a 99 qui vont échouer. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'on met derrière la notion de situation d'échec. Nous, avec Barthélémy, d'après toutes les histoires qu'on a pu voir et les associations de, enfin, les données recueillies par différentes ONG, on estime que les footballeurs africains sont en situation d'échec dans 70% des cas, une fois arrivés en Europe. Mais quand on dit situation d'échec, c'est pas le gars qui joue à Fergueiras en division B portugaise qui gagne 700 euros. Pour lui, vraiment, c'est une victoire parce qu'il y a réussite du processus migratoire. Non, c'est des jeunes, voilà, qui sont paumés, qui n'ont aucun moyen en fait de retourner chez eux, qui sont souvent victimes de réseaux criminels ou qui tombent, voilà, qui sont récupérés par des réseaux de prostitution, etc., etc. Mais ils ont surtout aucune possibilité de retour. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est que leur famille, le plus souvent, en fait, est complètement endettée, voilà, pour leur permettre le départ. Ouais. Alors, on parle de 3 000, 4 000 euros, c'est des petites sommes. Voilà, aux yeux des Européens, mais pour une famille africaine, c'est, voilà, 25 ans, 50 ans d'économie. Il y a tout le village qui paye pour leur donner un essai à Amiens. Et bon, une fois que le joueur, en fait, s'est fait arnaquer par un agent.
T'as dit Amiens au hasard.
Amiens au hasard, absolument. Non, en plus, c'est vrai. Hein. Mais c'est juste, ça peut. Non, mais Amiens au hasard, en plus, c'est vrai parce que de plus en plus, on voit que les joueurs africains, les footballeurs africains sont partout. Ah. Partout. Non, mais même en Moldavie, en Inde, en Thaïlande.
À Metz aussi, il y a le partenariat avec
J'ai
le
lu
Génération
Foot.
Il y a
quelques semaines maintenant, et j'ai reçu ton co-auteur dans Transversal, donc on avait déjà parlé de ça. Et moi, ce qui m'avait marqué d'abord dans le livre, c'est que en dehors de effectivement ceux qui profitent, on va dire le marchand, quoi, ou le faux agent, il n'y a pas véritablement de coupables. Et d'ailleurs, le titre dit bien que c'est un système, et c'est ça, en fait, qui est marquant. Oui. À part le gars qui se rince clairement et qui t'arnaque et qui te promet, va sur le quai de gare, quelqu'un va t'attendre.
Absolument.
Et qui se garde l'argent et il n'y a personne sur le quai de gare. Celui-là, si tu le chopes, peut-être qu'il est condamnable. Pour le reste, oui, les clubs européens profitent, mais la corruption, ou plutôt le problème de base, il est sur place.
Oui.
Il naît, tu l'as dit, d'un rêve. Il en ressort quelque part quelque chose d'assez inéluctable quand on lit le livre, c'est qu'en fait il n'y a pas de solution, parce qu'à partir du moment où tu as la réussite de 1 pour 1000, je dis 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 en tant que star, ça suffit à entretenir le rêve. Absolument. Et qu'ensuite en dessous, aux étages inférieurs, comme tu le disais, ne serait-ce que de jouer dans une deuxième ou troisième division de n'importe quel pays européen, et même de prendre 700 ou 1000 euros par mois, c'est déjà considéré comme une réussite.
Absolument.
Donc, ça crée un réservoir et une envie pour plein de monde.
Absolument. Bah,
et là, quand tu le lis, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas leur reprocher finalement?
Tu ne peux rien leur reprocher
à ces gens-là de rêver et tout. À partir du moment où déjà ils sont dans des situations précaires, dans certains pays.
On peut leur reprocher des fois. Et alors,
tu disais qu'il y a de rêver ou de croire que c'est possible.
Il y a des coupables clairement identifiés. C'est juste que les responsabilités sont partagées. D'ailleurs,
c'est un livre moralisateur.
C'est-à-dire que les Africains, déjà, ont une part énorme et une responsabilité énorme dans ce trafic. Il n'y a qu'à voir, voilà, la corruption. Tous les rabatteurs dans chaque pays sont des agents africains.
Bien sûr,
etc., etc. Sauf que bon, au sommet de la pyramide,
ils trouvent en face des gens avec qui faire business. C'est ce que je disais. En fait, elles sont partagées.
Absolument. Oui.
C'est le système dont on profite. Bon, après, il y a dans le bouquin, il y a aussi des choses qui sont chouettes. J'espère qu'on en parlera un petit peu aussi, mais il y a des belles histoires.
Ouais.
Il y a des choses qui sont chouettes. J'aime bien l'histoire. J'ai oublié son gars, le mec qui est à la Lazio, qui galère beaucoup.
Joseph Maré Minala.
Ah, voilà. Et on découvre que c'est un bon joueur, alors qu'on sait pas bien.
Tu veux dire celui qui fait 40 ans, alors qu'il a 17, là?
À la Lazio,
On a une photo de lui, on va vous la montrer sur BFM Histoire.
Son histoire est chouette.
Moi, je sais pas, il a 17 ans, quand tu vois la photo.
Ouais, mais son histoire, elle est, parce que vous l'avez en interview.
Non, mais l'interview lui dit, bah ouais, mais je suis plus âgé que mon âge, c'est pas ma faute.
Non, mais franchement, l'histoire, c'est touchant, là, son interview.
C'est touchant. Non, c'est vrai. Je suis bien d'accord.
D'accord,
avec toi,
c'est, il y a quand même deux, trois belles histoires.
Mais,
comme Dian Barthes, c'est quelque chose qui est très positif. On les aime bien, en plus. Joey Bocco, c'est des mecs qui, il y a ça, bon, il y a ce qu'a fait Guillou pendant longtemps, c'était positif. Bon, après, l'interview de Guillou, faut pas qu'elle tombe dans les mains du cran ou de Roca Diallo, sinon il a un procès, hein. On est bien d'accord. L'interview de Guillou,
il est un peu tendancieux de temps en temps, mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Jean-Marc Guillou, c'est qu'il parle sans phare.
Il lâche tout pendant
4 heures, voilà, dans un match.
Et aujourd'hui, ce genre de sincérité.
On a dû couper avec Barthélémy des beaux passages qui sont bien épicés, vous voyez.
Parce que j'adore aller dans les boîtes de nuit, parce que les Africains dansent bien.
Il est où Jean-Marc Guillou là?
Jean-Marc Guillou, il est au Mali, mais en fait, il est un peu partout dans le monde. Il a des académies de sport qui s'appellent JMJ. Et là, d'ailleurs, il vient récemment de s'associer avec Booba, qui se lance dans le. Qui va devenir agent de joueur. C'est un beau duo.
Il est en train de briller, alors, Guillou.
C'est vrai qu'il s'est un peu la carpe là-dedans, les deux.
Déjà, quand tu lis l'interview.
Mon formateur, et après, qui a été mon entraîneur en pro à Caen, Pascal Théo, il avait repris en 2002, il me semble, l'académie de Jean-Marc Guillou. C'est ça,
oui, parce que souvent elle ferme faute de subvention. Il se plaint de la rentabilité parce qu'en fait c'est ce qu'il dénonce lui très fort. Et quand on dit que voilà, c'est clairement une responsabilité européenne, c'est que en fait les clubs européens de plus en plus vont financer et vont être derrière de manière assez opaque, mais la multitude d'académies qui ont vu le jour sur le continent. Et aujourd'hui, dans une ville comme Abidjan, on recense pas moins de 400 académies de football. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment énorme et ça disperse déjà totalement les talents. Donc c'est complètement contre.
Oui, dans le bouquin, tu racontes, il y a les académies, il y a juste un mec avec un vieux ballon pas gonflé.
On se retrouve avec des gars qui te disent « Ah ouais, non mais moi c'est super, alors lui, en fait, son père est devenu son frère et je l'ai envoyé au Qatar et j'ai gagné 15 000 $, mais il s'est blessé au bout de trois matchs. »
Maintenant, il y a beaucoup plus de débouchés qu'à une époque.
Mais oui,
pour le football africain.
Notamment en Asie, il vaut beaucoup en Thaïlande.
Le marché, c'est méga ouvert, donc ça entretient encore plus le rêve de faire carrière.
Alors, absolument.
On va accueillir Julien dans quelques instants.
En Roumanie, dans des clubs moisis.
Juste au niveau des fédés, enfin, moi, je raconte une petite anecdote. Un jour, je suis dans un tournoi africain et un match ne se joue pas parce que les adversaires se rendent compte qu'il y avait deux dates de naissance différentes pour un joueur.
Un classique.
Et là, le gars de la fédé, en toute honnêteté, le gars de la fédé en question dit tout le monde fait ça. Et donc les mecs, les officiels leur disent non mais c'est illégal. Mais écoutez, nous on veut aider nos joueurs, dit le gars de la Fédé, donc on n'a aucun problème à leur enlever 3 ans, ça aide les gens dans leur carrière. Et alors
Ils se rendent pas compte.
Si le mec, grâce à ça, il.
Non. C'est illégal. C'est un énorme problème parce que.
Grâce à ça, toi t'étais meilleur à 28 qu'à 25.
Lesquels 28, les vrais ou les faux?
Moi, franchement, tu veux que je te dise, mais moi, quand j'étais formé, même pas formé, quand j'étais gamin à 8, 9, 10 ans, donc ça remonte, c'était fin des années 90. Moi, à l'AS Meudon, c'était mon premier club. On avait un joueur derrière, du moins c'était un, je sais pas s'il était sénégalais, je sais plus trop. Maiello, il s'appelait. Ben, je peux te dire, il avait 4-5 ans de plus. Ils faisaient des différences énormes.
Mais énormes, surtout qu'il est même à cet âge, mais c'est ce que dit bien Jean-Marc Guillou, c'est que même 6 mois de différence dans une même classe d'âge, c'est déjà beaucoup en pleine adolescence.
Dans les sports, pour les enfants, c'est énorme.
Mais quand on investit...
3 têtes de plus que tout le monde.
Pardon, mais quand on investit du temps et de l'argent sur un joueur qui a un âge tronqué, c'est une énorme perte de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit jamais les sélections africaines briller au haut niveau.
Bon, le Ghana a été quand même en quart de finale.
Pas mal, oui, mais par rapport au potentiel et au nombre de joueurs de talent qui ont été formés par ce continent, vous voyez.
Alors, on me pose une question sur Twitter. Est-ce que c'est fait exprès Magic System aux éditions Marabout?
Ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est bien tombé, c'est prédestiné.
Ouais, c'est
vrai,
ça fait beaucoup de clichés.
D'ailleurs, on en parle des marabouts aussi dans le livre.
Ça fait beaucoup de clichés, c'est comme la couverture, le mec derrière la cage et tout, là.
Alors, non, il y a quand même un truc, mine de rien. Parce que c'est Aspire, cette histoire de trafic d'âge, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ne vivent pas bien, parce que bon, en fait, t'es obligé de vivre dans le mensonge, en fait, pendant toute ta carrière. Et puis, des fois, quand
t'es. Défile avec combien?
Quand t'es censé avoir 20 ans et que t'en as peut-être 26 ou 27, t'as pas la vie de gamin de 20 ans qui sont avec toi dans le vestiaire. Et vous vous racontez dans le livre, parfois ça crée des
schizophrènes après à la fin, vraiment. Mais ouais, non mais ils sont là, il faut s'imaginer, voilà, on a 24 ans, 25 ans, voilà, on veut aller en boîte, on veut voilà draguer des filles, je sais pas, faire des trucs de son âge. Bon, on se retrouve à parler PlayStation et premier bisou avec des gars qui ont 16 ans ou 17 ans en centre de formation, quoi. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est des, après, ils font tellement de sacrifices pour y arriver qu'ils sont prêts à tout,
Ça démange un peu plus.
Julien, au 32-16 est là. Salut, Julien.
Salut tout le monde, bonsoir.
Salut, Julien. Ah, tu voulais raconter une histoire.
Jérôme, excuse-moi, je te coupe, Gilbert, pardon. Jérôme, on a des amis en commun sur Meudon. Hein. D'ailleurs, il me parle beaucoup de toi.
En bien.
Et pas combien.
C'est qui ça?
C'est Julien.
Je sais pas.
Ouais, je voulais intervenir en fait. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai eu, en région parisienne, j'ai eu pas mal de présus, comme on appelait. Face à moi.
Oui, alors ce qu'on appelle les présus, dans le foot amateur, c'est le gars que tu retrouves en face de toi et tu te dis, attends, lui, c'est bizarre, il y a problème sur l'âge.
J'ai présumé né.
Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui se passait, c'est que bon, ça, dans le vestiaire, tu le voyais, enfin, quand t'as 13 ans, quand t'as 13, 14 ans, enfin, entre 12 et 15 ans, on va dire, malheureusement, heureusement, le mec, il a poil au torse, il commence à avoir les pecs formés, et toi, t'es tout là, tout gringalé à côté.
Si, avec les pecs, en plus.
Ouais, mais en plus, à l'époque, il n'y avait pas trop la mode de la muscu, tu vois, c'était, voilà. Enfin, et j'en avais un en moins de 17, en fait, on était en moins de 17 DH. Il est arrivé déjà, il venait d'arriver en France il y a un an, il avait déjà 3 ans de plus que nous. Enfin, on le savait, quoi. Mmh. Sur le papier, il avait notre âge. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un agent qui l'avait amené dans notre club, en fait, et l'agent l'a proposé au RC Lens. Mmh. Et le RC Lens lui a dit, s'il a un an de moins, ça nous arrange.
Bon, c'est incroyable, ça.
Mais tout ce que je te dis, c'est vrai, hein, crois-moi. Hein. Et fin de saison, ce qui se passe, c'est que lui, il reste là.
Gerbet Martel. Putain.
La saison redémarre. Et il joue avec nous la saison d'après, mais on regarde la licence, il a un an de moins. Bon, ok. Nous, on n'a pas relevé. Et à la fin de l'année, il est parti au RC Lens, il a terminé pro et il a fait sa petite carrière international africain.
Mais c'était qui?
Ah, je peux pas donner de nom, ça se fait pas, moi. Non, je peux pas, Daniel.
Bah, si le mec, il a fait carrière, tant mieux pour lui.
Ouais, mais bon,
ça, c'est fini, il y a prescription.
C'est fini, c'est pas le seul.
Ses initiales, c'est quoi? On est très bon sur le jeu.
Ça va, c'est pas...
Le prénom,
c'est... Les initiales, t'en fais ce que tu veux.
Ouais, vas-y.
KZ, international guinéen.
Moi, ça, c'est pour Gilbert, ça.
KZ, allez.
On va trouver. Julien, merci pour ce témoignage en tout cas. Alors, il y a quand même un truc, Christophe, c'est que la FIFA s'attaque quand même au problème parce qu'il y a maintenant des contrôles.
Ok.
Ouais. Guinéen, appelle Louis si c'est. Hey. Il l'a peut-être appelé.
Il y a des contrôles réguliers, notamment sur les compétitions internationales.
Oui.
Notamment toute une équipe du Nigeria qui s'est fait balayer parce qu'ils ont viré quasiment tous les joueurs parce qu'ils avaient tous triché.
Voilà, la Coupe du Monde des moins de 17, la dernière Coupe du Monde, il y a 26 joueurs nigérians sur les 60 présélectionnés qui ont dégagé à cause de l'âge truclé. Ils ont fait des tests osseux qui sont un bon moyen de voir la fraude.
Bon, il se passe quand même des choses, même si,
tout le monde le fait. Quoi,
malheureusement, ce n'est pas d'une efficacité totale.
Ah oui, non mais si, parce que là où on voit vraiment l'inefficacité de la FIFA, c'est dans des affaires comme celle de Kabananga qu'on décrit dans le livre par rapport à Anderlecht. Ou alors ça, en gros, Kabananga, c'est un international congolais, donc qui a été meilleur buteur de la dernière CAN, et il a été formé à Kinshasa dans un petit club qui s'appelle le CS Aigle Vert. C'est vraiment un petit club de quartier, rien à voir. Mais bref, toujours est-il que, en gros, ils ont fait des calculs, ils ont droit à 100 000 euros d'indemnité, ce petit club. Donc ils ont porté plainte, à la FIFA, ils ont demandé les indemnités à Anderlecht, et ça a fait 7 ans, de bataille juridique avec Anderlecht qui a mis un faux contrat dans le dossier, ce qui pourrait leur valoir très cher.
Apparemment très fort dans l'arnaque. Hein.
Très fort, mais en fait parce que tout simplement la Belgique est une faille juridique pour est une sorte de trou noir juridique pour l'arrivée des migrants. En fait, on peut leur donner un salaire minimum assez conséquent assez facilement. Donc c'est souvent par là que ça commence. Effectivement, chez les clubs belges. Mais la Belgique, en fait, n'est qu'un espace tremplin. Après, le but pour tous les joueurs africains, c'est d'aller en France, en Angleterre.
Après, j'ai quand même, bon, on va pas rentrer dans les détails pays par pays, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des pays qui prennent un peu les choses à, enfin, tu vois, par exemple, la RDC, la situation semble cataclysmique. Ouais. Non, alors que, bon, par exemple, le Sénégal ou d'autres pays, bon, je pense que le Sénégal, c'est plus organisé.
Mais
c'est
ce qu'on voit, c'est que c'est une initiative privée, voilà. Ils ont eu des donc, l'aide de Patrick Vieira, de Bernard Lama, ils ont eu des fonds de l'Île-de-France, enfin bref, c'est 7 millions d'euros en tout, Diambar, ça a coûté. Donc effectivement, il faut c'est une initiative privée qui a bien marché et qui est remarquable et qui vraiment fait aller les choses dans le bon sens, mais c'est encore une goutte dans l'eau, quoi. Parce que pour un Diambar, on a 400 académies poubelles qui, en fait, ne voient que dans le jeune joueur africain une marchandise qu'on va très vite soumettre à valorisation, et pour ça, vraiment, on va les traiter... Comme des animaux. Voilà, ouais. disons-le.
Magic System aux éditions Marabout, donc avec
le joueur c'est Camille Zayat.
Toutes ses interviews.
Notamment du temps. Hein. Guillaume, j'ai trouvé tout de suite.
Intéressant. Non, merci Christophe.
Bah, merci à vous. C'était un plaisir.
Tu restes avec nous.
Merci Christophe. Ouais, merci pour le livre. C'est sympa de l'avoir.
Et je l'offre à Jérôme.
Ah bah superbe.
Tiens, Jérôme, c'est cadeau.
Une dédicace.
Voilà. Et attends, là, tu sais comment il est là? Là, il me dit je l'offre, et dès qu'on sort, il me dit bon, vas-y, rends-moi le livre. Voilà.
Dans quelques instants, Football Story. Justement, on va reparler de foot africain et l'invité surprise que vous n'avez toujours pas trouvé. Hein. Il sera avec nous dans quelques minutes. Ça va jouer le quiz juste avant minuit. A tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
L'after est là jusqu'à minuit avec un casting de rêve ce soir. Daniel Riolo, Jérôme Roten, Noah, toujours avec nous. Noah prépare le quiz, hein, attention. Et puis Christophe Glaise qui est là, donc Magic System aux éditions Marabout. On va toujours parler de foot africain dans quelques instants. Juste, j'ai un dernier tweet quand même, il fallait que je vous le lise celui-là. On me dit, vraisemblablement en Grèce aussi, il y a du trafic d'âge, regardez Mitroglou, me dit-on sur Twitter. Je sais pas. Allez, After Story, c'est parti. On y va. Ah oui, alors, l'After Story, c'est le jour où le Cameroun a battu l'Argentine. C'était en 1990 pour les plus jeunes. Moi, je me souviens très très bien de ce match. Un match marquant dans l'histoire des Coupes du Monde. Je vous rappelle quand même le contexte rapidos. La France a brillé lors des qualifs, puisqu'elle n'est pas qualifiée, en l'occurrence pour cette Coupe du Monde. Et le 8 juin, c'est le match d'ouverture qui oppose l'Argentine, championne du monde en titre, Maradona, la totale, au Cameroun.
Un peu favorite, hein.
Oui, carrément même.
Bah oui, sur ce match-là, oui.
Donc la méga star de la rencontre, c'est Diego. Il vient de remporter le catch avec le Napoli pour la deuxième fois. Échauffement d'avant-match uniquement à base de jonglage avec les épaules. Il y a aussi Buruchaga, Ruggeri, Sensini, Caniggia, Gabi Calderon. Ah, Stade Malherbe de Caen.
Bah ouais.
Gabi Calderon, bref, du beau monde. Et l'entraîneur, vous vous en souvenez, c'est qui? Carlos
Bianchi.
Carlos Bi. Là.
Bilardo,
bien sûr. En face, c'est le Cameroun, nettement Bilardo. Inférieur sur le papier, pas de star. Il y a Thomas Nkono quand même, qui joue à l'Espagnol Barcelone.
Il y a François. On connaît.
Oui, mais que c'est pas des stars internationales. Il y a François Mambi qui vient de signer dans le prestigieux club breton du Stade Rennais, messieurs dames. Et puis Roger Milla, 38 ans.
Jean-Claude Payal,
il a gagné. Sur l'âge de Milla à l'époque, t'as un doute ou on est bon, on est décalé?
Roger Milla, en fait, il s'est vieilli pour participer à une Coupe du Monde.
Voilà.
C'est ce que dit Claude Leroy dans sa préface.
Voilà. À quel âge il avait là?
Là, il a 38 officiellement.
D'accord.
Voilà. Et il vient de quitter Montpellier pour partir jouer à la Réunion. Figurez-vous au club de Saint-Pierre. Ouais. Oh, en gros, ça sent la raclée. Le match a lieu à Milan, ennemi du Napoli. Du coup, Maradona et hué pendant toute la rencontre, comme dans beaucoup d'autres matchs argentins d'ailleurs lors de ce mondial, c'était un peu le feuilleton en 90. Paul Biya, le président du Cameroun, est dans les tribunes, les joueurs le savent, et ça motive. D'ailleurs, il est toujours président du Cameroun, hein, Paul Biya, aujourd'hui. Il était intervenu lui-même en personne pour que Roger Milla soit dans l'équipe. Dès les premières minutes, comme on dit dans le foot, on se rend compte que cette équipe est prenable, dira plus tard François Omambi, qui petit à petit, ils sont mis en confiance. Il y a quelques arrêts d'Nkono. Les Lions indomptables sont de plus en plus offensifs, 0-0 à la mi-temps.
Tout les Argentins démarrent, mais vraiment doucement, cette Coupe du Monde.
Exactement, en prenant de haut le Cameroun, vraisemblablement.
Oui, parce que après, on sait comment ils ont fini, les Argentins.
Exactement. Deuxième période, même combat, les deux équipes font jeu égal, mais l'arbitre de cette rencontre exclut Canabic à la 61e.
C'est l'arbitre, c'est Vautreau.
L'arbitre, c'est Monsieur Vautreau. Michel Vautreau, bien
notre
sûr.
Notre star de l'arbitrage. Avec Joël Quignou, à l'époque, il se partageait le leadership, même si Vautreau avait encore un peu l'ancienneté.
C'était le boss. C'était le boss.
Michel Vautreau, le doubiste.
Oui, mais Joël lui cirait les chaussures.
Quignou, il avait déjà fait la Coupe du Monde d'avant et tout. C'était nos vedettes, mais Vautreau avait l'ancienneté.
Apparemment, il disait.
Attention. André Canabic, le père de Jean Armel, ancien joueur lui aussi du Stade Rennais, est exclu à la 61e. Le Cameroun se retrouve à 10. Mais quelques minutes plus tard, coup franc pour le Cameroun. Omambik se détend, tête. Faute de main de Pompidou.
Qui d'ailleurs perd sa place.
Exactement, qui d'ailleurs perd sa place pour Goy Kotchea, qui ensuite fera
des miracles.
Des miracles dans les séances de tir au but. Ouais. Le Cameroun tient jusqu'au bout, il finira même la rencontre à 9. Après une nouvelle exclusion, celle de Benjamin Massing dans les dernières minutes. Deux cartons rouges donc pour Monsieur Vautreau. C'est la plus belle victoire du foot africain à l'époque en Coupe du Monde. Roger Milla sera le héros ensuite de l'épopée du Cameroun, bien sûr. Et depuis ce match, figurez-vous qu'au Cameroun, Michel Vautreau, pour ses deux cartons rouges, est surnommé Méchant Michel. Eh bien, Méchant Michel est en direct avec nous.
Michel
Vautreau, bonsoir.
Bonsoir les méchants.
Bonsoir Michel Vautreau, c'est fou ça.
Ah, ça nous fait plaisir de vous avoir parce que...
On vous entend plus, qu'est-ce que vous devenez?
Bah moi, je suis un has-been, j'avais pas mal bossé pour mettre un peu l'arbitrage sur des voies modernes. J'ai dénoncé quelques magouilles et puis on a préféré me mettre de côté. Donc, je suis tranquillement en dehors, bien loin du foot et voilà.
Je suis heureux
d'entendre tous les époques que j'ai pu vivre. Jérôme, je l'ai suivi après quand j'étais observateur des matchs. J'aurais bien aimé l'arbitrer, j'aurais pu le virer, mais bon, ça s'est pas fait.
Non, tu n'aurais même pas fait ça.
Est-ce que vous avez des souvenirs très précis de ce match Cameroun-Argentine?
Naturellement, on peut pas apporter un match d'ouverture. C'est toujours aussi important qu'une finale parce que on n'est pas dans les conditions normales d'un match que l'on arbitre, par exemple dans le cadre du championnat de France ou d'un match de, ça s'appelait pas la Ligue des Champions, mais de la Coupe des Champions des clubs, parce que là, tout le monde vous regarde et la FIFA vous dit, il faut donner là pour montrer que pour la suite du tournoi, qu'on ne va rien laisser passer, qu'il faut appliquer le règlement.
Match d'ouverture, on ne mettait pas les tocards, Monsieur Vautreau, on mettait les bons.
Vous savez, moi j'ai d'abord eu très peur parce que j'ai failli pas y aller. Moi qui m'étais jamais blessé, 2 mois avant on fait des tests en Italie, et pour la première fois et la dernière fois de ma carrière, j'ai eu un plaquage.
Et dans
les soins très compétents, dévoués du professeur Saillant, qui s'est même déplacé un dimanche pour me dire si je pouvais aller à la Coupe du Monde ou pas, de mon ami Gérard Nicolet, qui malheureusement est décédé au mois de mai dernier, qui était le docteur du Tour de France, qui est un jurassien.
Il vous a filé 2-3 produits alors, un médecin du Tour de France.
Mais oui, mais c'est un miracle que j'aille à la Coupe du Monde, et on m'avait dit surtout, il faudrait leur dire qu'au début on te laisse tranquille, mais si vous arrivez en disant aux dirigeants de la FIFA que vous savez, je suis pas sûr, il faut pas me mettre
c'est fini. Hein.
Alors racontez-nous les Camerounais, Maradona, comment c'était pendant ce match?
Alors, c'est deuxièmement ce que je voudrais dire, j'ai une pensée particulière parce qu'au mois de décembre, j'ai appris la triste nouvelle du décès de Benjamin Messing que j'avais exclu.
Ouais, qui était sur le terrain ce jour-là, international camerounais, ouais.
Ouais, et j'avoue toujours beaucoup de nostalgie pour les joueurs que j'ai rencontrés, et je trouve injuste de mourir aussi jeune, et ça m'a fait quelque chose quand j'ai appris son décès. Pour le match, c'était pas facile, non pas que je cherche des excuses, mais vous aviez une équipe francophone avec un arbitre francophone, la moitié des joueurs, je les connaissais parce qu'ils jouaient dans le championnat de France. Roger Milla était un très bon ami sportif à moi, d'ailleurs il m'a beaucoup aidé sur le terrain, et je me souviens qu'à la fin de la rencontre, je lui ai dit, Roger, mais tu devrais m'embrasser et me tirer les godasses, parce que vous réalisez l'exploit de battre le tenant de la Coupe du Monde à 9 contre 11. Et bien sûr, j'ai pu le dire parce qu'ils avaient gagné, s'ils avaient perdu. J'ai reçu des lettres, des menaces de mort, on m'a dit qu'il fallait pas que j'oublie que j'avais du sang africain dans les veines. Et puis alors, si une petite anecdote qui maintenant m'amuse toujours, Le Canard Enchaîné avait fait un petit dessin et on voyait le Jean-Marie Le Pen qui regardait le match. Et puis ils avaient croqué donc les deux joueurs qui partaient la tête basse, et moi qui donnais mon carton rouge, et dans la bulle il y avait marqué « Ce vautre ferait un très bon ministre de l'Intérieur
». Et dites-moi, le match il n'était pas simple à arbitrer, parce que je me souviens que les Argentins, qu'est-ce qu'ils vous ont bousculé, Maradona, il vous a pourri tout le match, parce que forcément ils étaient frustrés.
Vous savez bien qu'en vieillissant on oublie beaucoup de choses, c'est l'avantage d'Alzheimer. Personnellement, j'en ai plus bavé pour la demi-finale de Coupe du Monde, d'Italie-Argentine, où là, tout le public...
Ah ouais, mais là, celui-là, il était particulier, ce match. Hein.
Ouais, mais sur ce... Honnêtement, je ne cherche plus maintenant, il y a prescription, je ne cherche pas à me défendre, mais je ne me souviens pas. Moi, j'ai personnellement, je le dis, mais certainement me trompant, tous les matchs où j'ai arbitré Maradona, il n'a pas spécialement joué sur son nom. Et comme je l'ai fait avec le Napoli, et il a toujours été... ça n'a pas été un joueur dont je garde un mauvais souvenir, parce qu'il aurait pu jouer sur son nom, sur ce qu'il représentait. Mmh. Mais je ne vous dis pas qu'il s'est bien comporté pour le match d'ouverture, parce que c'est un match particulier.
Ils étaient énervés, les Argentins, de perdre contre eux. Ils s'y attendaient tellement pas qu'ils avaient pris le match à la légère. Bon, ça ne les a pas empêchés d'aller en finale, hein, et Maradona de faire une grande Coupe du Monde.
C'est vrai, et là, c'est une grande surprise, parce que c'est le charme du football. Le Cameroun n'avait pas volé sa victoire, et personnellement, je me suis dit, ils ont gagné, t'as mis deux cartons rouges, personne se rappelle d'un pénalty bidon ou d'un hors-jeu foireux, c'est, je pense, le plus important pour un arbitre.
Alors, contrairement à Joël Quiniou, vous avez une place à votre nom, on a vu la photo là sur BFM Sport, la place Michel Vautreau, magnifique, c'est dans quelle ville ça?
Bon, écoutez, c'est très prétentieux, parce qu'il n'y en a pas qu'une.
Vous auriez pu en laisser une à Joël.
Ah oui, Joël. Mais bon, le problème, j'ai l'impression que plus on est mauvais, plus on nous donne des noms. Il y a à Dampierre dans le Jura qui était la ville de mon père. Il y a Seveux en Haute-Saône qui était la ville de l'ancien ministre des Sports Christian Bergelin. Il y a un grand parc des sports de 10 hectares à Besançon, au mois de septembre, la mairie a donné mon nom. La ville de Saint-Vite aussi, mais j'en oublie, parce qu'il y a un stade en Normandie, parce que je croyais que c'était une blague qu'on me faisait, j'étais encore arbitre, Barentin, et il y a Gilles, le Haut-Douce, pour ceux qui connaissent, la République du Saugé.
Donc on pourrait faire un petit village avec toutes les places.
J'ai deux questions. La première, ce match-là, vous l'arbitrez, c'est une surprise dont on se souvient encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre match que vous avez arbitré avec au bout un résultat totalement inattendu? À ce point-là.
Pour l'instant, je suis pas préparé à cette question, donc je m'en souviens
pas comme ça.
Si, j'allais oublier le plus important. Et d'ailleurs, ça me fait mal au cœur pour l'arbitrage français, parce que je crois que j'ai été le dernier arbitre français à arbitrer une finale de donc l'ancêtre de la Ligue des Champions en 86 à Séville.
Le Steaua Barça, c'est vous? J'avais complètement oublié.
Avec
les pénalties de Douk Adam là, qui les arrête tous.
Si j'avais fait une erreur, vous auriez encore pensé à moi. Donc finalement, il faut faire des erreurs.
Cette finale, elle est énorme, cette finale, avec le gardien roumain qui arrête tous les pénaux.
Tu sais que Michel Vautreau est le seul arbitre français à avoir fait une finale d'Euro 88.
Ah oui, il avait Van Basten,
Pays-Bas URSS.
Ah oui, c'est vous aussi. Le but de Van Basten, c'est lui aussi.
La Ligue des Champions 86 et finale de Coupe de l'UEFA aussi.
Ouais, c'est
et
vrai,
puis
ça.
J'ai fait la Coupe de l'UEFA Real Madrid, je vous dis pas le nom parce que c'était Vidéoton, mais c'est dans la ville qui est très compliquée à dire, à côté de Budapest, enfin à Budapest dans les quartiers. Oui. Et puis alors c'est prétentieux, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. J'ai passé l'âge de chercher les honneurs, puisque je suis plus près de la fin du match que du début. J'ai arbitré, c'est passé totalement inaperçu. Personnellement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué au foot, ça a été un grand honneur, honnêtement pour moi, une fierté. J'ai pas peur de le dire. J'avais arbitré, je suis le seul arbitre non-asiatique à avoir arbitré la même année, quelques mois avant l'Euro 88, la finale des Nations de l'Asie.
Ah, d'accord.
Au Qatar.
Ah, ça, il n'y a que Gilbert qui regarde ces matchs-là.
Ah, ça se déroulait au Qatar.
Michel Vautreau,
c'est
dernière
vous aviez pris les premières mallettes au Qatar.
C'est
les
premières mallettes.
Les premières mallettes au Qatar, ouais. C'est lui.
Bravo, Michel.
Une dernière question, Michel Vautreau, avant de vous laisser.
Pourquoi il n'y a pas d'arbitre français aussi
très
fort que lui maintenant?
Très important, pour une fois qu'on vous a au téléphone, est-ce que vous êtes pour ou contre la vidéo?
contre.
Bravo, bravo, oh, c'est magnifique, bravo. C'est magnifique, alors, je m'attendais pas à cette réponse. Magnifique, monsieur Vautreau.
Oh là là,
oh là, quel soulagement, quel soulagement.
Ça nous change de Joël, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là.
Ah oui, mais notre Joël, bon. Il est... Alors je vais être très franc avec vous. Comme arbitre, j'aurais été heureux si j'avais fait une erreur. Qu'on puisse me dire attention, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les grands matchs, si l'arbitre ça se passe bien, on dit rien. S'il y a une erreur, on n'oublie plus son nom. Je rentre, j'étais en Argentine en vacances, j'ai fait une expédition en Antarctique il y a 15 jours. Les taxis à Buenos Aires m'ont tous parlé de l'arbitre qui est de la finale, Codesal, parce qu'il a sifflé un pénalty. Et donc là-bas, il est populaire. Moi, ils ne sont pas rappelés que j'avais arbitré la demi-finale et qu'il s'était
qualifié. La finale Allemagne, la finale Allemagne-Argentine.
Oui.
Ah et donc, c'était l'arbitre mexicain, là.
Donc, 28 ans après, ils m'en ont tous parlé. Enfin, quand je dis tous, hein, j'ai pas vu tous les Argentins. Mais les gens qui étaient à l'hôtel, les taxis, je les entendais qui écoutaient les matchs. Parce qu'avec la passion que vous connaissez pour les reportages en Amérique du Sud. Et j'ai dit, alors, tu te souviens du match hein? Et puis j'ai dit, arbitro, c'était moi. Bon, comme ils étaient qualifiés, je l'ai dit. Mais ils m'ont surtout dit, Codesal. Parce qu'ils se rappellent que de l'arbitre de la finale qui leur a sifflé un pénalty contre eux.
Michel Vautreau, en tout cas, merci. C'était super de vous avoir.
Ouais, super.
Merci,
ouais.
Michel.
Et que vous soyez contre la vidéo nous conforte dans nos avis puisqu'on est aussi contre. Donc,
On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non pas que je suis, mais je pense qu'en Coupe du Monde, on va peut-être avoir quelques surprises parce que je me dis qu'il faut gommer les injustices, mais comme il y en aura d'autres où il n'y aura pas la vidéo, il faudra faire comprendre aux gens le jour d'une finale qu'un but a été refusé parce qu'il y a eu marqué de la main que l'arbitre n'avait pas vu, donc c'est très bien, on l'annule, et qu'à la dernière minute de jeu, il y a une touche pour l'autre équipe, pour la même équipe, l'autre équipe qui était inversée, et qui marque le but et qui gagne.
Ça, monsieur Vautreau, on se tue à le répéter depuis des mois et des mois, à faire comprendre ça. Voilà.
Je suis un vieux
con. On est d'accord avec vous.
Bah, nous aussi, en fait, alors.
merci en tout cas de votre disponibilité.
À très bientôt dans l'after.
Merci d'avoir sorti de la naphtaline, parce que mon grand regret, on parle beaucoup sur l'arbitrage, et moi je me dis, j'ai quand même fait quelques grands matchs, j'ai jamais pu donner de conseils à nos jeunes arbitres au niveau international, comme Joël d'ailleurs.
Ouais. Merci Michel, et puis Joël Quignot qui est avec nous régulièrement, c'est notre arbitre radio. Bonne soirée Michel Vautreau, à très bientôt. Le quiz dans quelques instants.
Mais super Vautreau, il est en forme. Hein.
Ah ouais,
impeccable.
Quel âge il a, Michel? Il s'abstient pas par contre.
Ah ouais. Quel âge il a? Quel âge il a maintenant? Qu'est-ce que ça va pas toi?
Alors que toi, dans le doux, tu t'abstiens quand tu joues à Sochaux.
Exactement.
Bah non, à Sochaux, il s'est bien tenu, tu rigoles. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit avec Christophe Glaise toujours là. Je rappelle le bouquin quand même, Magic System aux éditions Marabout. Hop, je le remontre, il est là. Jérôme en a un maintenant en plus, donc tout va bien.
T'imagines, je suis en train d'y penser, le petit Noah, il t'a jamais vu jouer, Jérôme.
2003.
Si, si.
Mais si, il m'a vu jouer.
Il était à Lyon-Bastia, et qui a marqué pour Bastia? C'est Bibi.
Mais t'étais tout petit quand tu jouais.
Et là, il a dit.
J'avais 8 ans. Ça m'avait marqué parce que la course d'élan était un peu ralentie. On sentait quand même la fin de carrière,
mais
le plat du pied, il est là. Le plat du pied, la patte gauche.
Bravo, Noah.
La patte gauche, elle est là.
Quelle belle analyse, franchement.
Bah exactement, de toute façon, attends, quand t'as 35, tu vas avoir 36 ans, qu'est-ce que tu étais pas vif comme
l'éclair.
Par contre, j'allais super vite avant, quoi.
Messieurs, le quiz, attention. Alors, j'ai deux équipes, équipe Noah, Daniel, et équipe Christophe, Jérôme.
Noah, t'as intérêt de chaud, vieux.
Fabrice va jouer avec nous. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Salut, Fabrice.
Fabrice, tu choisis l'équipe Daniel, Noah ou l'équipe Christophe, Jérôme?
Daniel.
Très bien.
Ah, je suis pas en forme, je suis pas gagné.
Pierre est avec nous également. Salut Pierre.
Salut Gilbert,
je vais te laisser gagner, je pense.
Messieurs, j'ai un petit lot de t-shirts de l'after à gagner, plus des bouquins sur l'histoire du foot aux éditions Quelle Histoire. Des petits bouquins très sympas. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez qu'il y a France-Colombie.
Ouais.
Vendredi.
Ça m'intéresse.
On va se faire un petit quiz colombien de la Ligue 1.
Super.
Cachez votre joie. Attention, quiz de rapidité. En Europe, ou en France ou ailleurs, avec quel club Mario Yepes a-t-il été champion?
Nantes.
Non.
En France.
Avec Milan.
Avec Milan, Daniel, c'est bon.
Ah, je crois que tu avais dit en France.
Faut juste réfléchir un peu.
J'ai dit n'importe où.
Non,
j'ai dit en Europe, en France ou ailleurs. Avec quel club il est passé, a-t-il été champion? C'est Milan.
C'est facile, ça, putain.
Attention, où jouer James Rodriguez avant de signer à Monaco? Avant de signer à Monaco.
Porto,
Nora, bien joué.
Non,
Bah, qui a été le pire.
Qu'est-ce que c'est que ce quiz?
Vous respectez l'arbitre?
Mais toi, arrête de faire l'oreillette. Et l'autre, tu comprends rien.
Michel Vautreau,
c'est Michel Vautreau qui arbitre ce quiz.
N'importe quoi.
Qui était le gardien de la Colombie lors de la Coupe du Monde 98?
Chilavert.
Non,
Colombie.
Cordoba. Il est paraguayen. C'est pas Cordoba.
Cordoba.
Mondragon.
Mondragon, deux fois je te le dis.
Bah ouais, mais alors attends.
Farid Mondragon. Affirme-toi, Jérôme.
Mais non, mais je le dis.
Ça affirme, Mondragon.
Bravo.
Attention.
Je sais, Daniel. Merci.
Bravo.
Lors de son passage, à Montpellier, Carlos Valderrama, autre Colombien, a connu quatre entraîneurs. J'en demande juste un seul.
Mézi.
Michel Mézi, Daniel, c'est bon. En même temps, tu disais Mézi, tu ne prenais pas trop de risques.
Ouais, c'est ça, ouais,
12 fois de Montpellier.
Mais c'est pour ça que je n'ai pas pris de risques.
Il y a eu Casperzac, Mézi, Jacquet et Mosca.
Ouais.
3.
Casperzac, Mézi, Jacquet et Mosca.
Attention, lors de ma signature à l'été 2008, je déclare, je suis fier d'être niçois. Qui suis-je?
Zvitanić?
Non.
Montano.
Non, ce n'est pas Montano.
Putain, c'est l'autre là.
Il joue aujourd'hui dans un grand club européen.
Bah, Ospina.
Ospina, mais Daniel, ouais. C'est bon.
J'ai fini par le caser. Ospina.
Ça fait 4.
J'ai essayé de caser tout à l'heure.
Attention, trouvez-moi ce joueur colombien avec ce seul indice, Les Misérables.
Victor Hugo Montano,
bien joué, Pierre.
Et qui, Pierre?
Ça fait 4-2. Pierre est avec Jérôme et Christophe.
Montano, il l'a placé aussi.
Victor Hugo Montano, ça passe toujours.
Attention.
Moi, j'en ai un autre, là, il va passer aussi, je te le dis.
Quel attaquant international colombien a eu le parcours européen suivant? Saint-Étienne, Porto, Inter.
Saint-Étienne.
Ouais. Prénom Freddy.
Guarine, bien joué, 4-3.
Il est chaud, Pierre.
Je peux faire un point avec le mec qui est avec nous là. Il s'appelle comment?
C'est Fabrice.
Fabrice, tu es toujours là, tu dors pas.
Ouais, je suis là.
Ouais, bah, bouge un peu quand même. Hein.
Freddy Guarine.
Jérôme, ça te fait pas chier d'avoir aucune réponse et de compter sur
Écoute,
le buteur.
Guarine, je l'ai dit en même temps que lui.
4-3. Attention, je suis un attaquant. J'ai joué à Monaco pendant 3 saisons. Quelques années après Jérôme Bretagne, j'aurais pu être un simple flic ou un pizzaiolo.
Pino.
Je suis Pino, Juan Pablo Pino, bien joué Daniel, Pino, ça fait 5-3.
C'est grâce au pizzaiolo qu'il a trouvé,
bah
c'est
ouais,
pas
c'est
vous
simple
flic. Au simple flic. C'est-à-dire que j'avais oublié ce joueur.
Juan Pablo Pino.
Mais je me souviens parce que c'était Jean-Paul Pino.
C'est un bon joueur.
Exactement. Attention, 5-3, vous pouvez encore vous refaire. Quel attaquant colombien des années 90-2000 a joué à Toulouse, Nantes et Montpellier?
Toulouse,
Nantes et Montpellier. Ah, c'est un peu tendu là quand même, faut s'en rappeler. Son prénom était Victor.
Bonilla,
bien joué. C'est Pierre?
Ouais,
Pierre.
5-4.
Joli.
5-4.
Salut, le gars.
Attention.
Il est bon, là. Victor Bonilla. Bravo,
attention,
Pierre.
Il m'en reste.
Par contre, on est que deux, Pierre, hein, parce que Christophe, ouais. Là, il.
Je me suis fait voler James Rodriguez, moi.
il me reste deux questions. Et il y a 5-4.
Oh là.
Il n'aime pas.
Attention, dans quel club français a évolué le milieu de terrain colombien Carlos Sanchez?
Valenciennes. Ouais, au revoir tout le monde.
Daniel, c'est gagné. Valenciennes. Et il joue aujourd'hui à l'Espagnol Barcelone.
J'aurais dû le trouver, c'est mon premier rôle.
C'est la dernière quand même, Gilbert.
La dernière pour la route. Maradona avait comme surnom El Pibe de Oro. Quel autre?
Valderrama,
qui avait comme surnom également.
Ah, t'avais deux questions avec
Valderrama. Ouais, là c'est. Franchement, limite le
heureusement qu'il y avait Pierre pour l'équipe
Pierre,
d'en face.
Pierre, on t'envoie le lot de t-shirts de l'after.
Limite,
c'est
il m'a fait un peu transpirer.
Cadeau à tes amis,
Pierre,
tes cousins, tes voisins.
J'ai perdu.
Ah non, c'est Fabrice. Ah bah, ouais. Un petit bouquin pour Pierre.
Fabrice, ça va sinon, toi, t'es pas tranquille.
Bah, Fabrice a gagné.
Voilà, tranquille.
Pierre, je t'enverrai un livre.
Bon, Pierre, un t-shirt quand même pour Pierre.
Je t'enverrai un livre, t'en fais pas. J'en ai récupéré quelques-uns.
Merci les gars d'avoir joué le jeu avec nous. Salut.
Salut, merci les gars, c'était sympa, merci.
Ouais. Bye bye, à demain pour un nouveau
content,
quiz.
T'es content, Fabrice, il a rien dit, il a gagné.
Noah, le mot de la fin pour toi, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur l'after?
Tu peux dire bonne nuit si tu veux.
Bah,
j'étais bien, ça va.
J'étais bien, un peu tendu, mais ça va. Pour une
première, j'espère. C'était bien. Et pour aller à l'école demain, tu vas morfler. Hein.
Ah, mais il y a plus important.
Ah, d'accord, ok, très bien.
Bah, on trouve que t'as été bon.
T'as eu bonne note, t'as combien de moyenne?
Peu.
Quoi?
Peu quoi?
T'es en dessous de la moyenne, sans déconner.
Ah non.
Ah non, on ne dit pas, nous, dans l'after, nous, ici, en dessous de 15, on prend pas. Hein.
Après, le bac, là, je m'en sors.
T'as 15 de moyenne?
J'ai une épreuve du bac ce matin, ça allait.
Ça va? Attends, la moyenne, on n'a pas, là, 10, 15?
Ah oui, la moyenne, non, t'as 15, non.
Non?
Non.
Oh!
T'es du style à être devant ou derrière?
Eh mec, il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein.
Derrière, ouais, allez, c'est bon.
Faut bosser. Hein.
Heureusement qu'il y a le sport, on va dire.
Ouais. Pour la moyenne.
En tout cas, 15 ans, c'est le bon âge pour découvrir l'after. Donc je te conseille d'en parler à tous tes potes. Hein. C'est important pour notre futur à nous aussi. Donc si tu pouvais faire le métier pour nous, merci.
Attends, t'as vu,
Christophe,
tu dis juste bosser à l'école, mec. Mais d'avoir fait tenter Jérôme pour dire que les deux, comment vont s'améliorer.
Bah, ça, c'est sûr. Non, le sport plutôt. Non, moi, je parle de sport. Là, eux, là, par contre, on parle avec.
Bonne à tous, demain on est de retour à 22h. Demain on va parler QI football avec un spécialiste du QI. Et là attention, ça va être du très très haut
niveau. Oh merde.
À demain soir.
RMC, le super football show, l'after foot.